Les colloques du Collège de France.
Merci, c'est un grand plaisir d'être ici. En venant ici ce matin, il y avait des camions du CRS. Et j'ai demandé, mais pourquoi vous êtes là? C'est parce qu'il y a un prix Nobel dans le bâtiment? Ils ont dit non, c'est parce qu'on a entendu qu'il y a Michael Jordan, le fameux de basketball, qui est dans les parages. Non, mais mes compliments à Philippe, et je suis très occupé maintenant, mais je vais dire plus ou moins la même chose qu'il vient de dire. Lui était un peu plus macro, moi je vais être plus micro. Les algorithmes, quels sont les algorithmes qui fournissent cette technologie, qui sont derrière? Et ce sont des ingénieurs qui utilisent ces algorithmes, il faut que ces algorithmes parlent à nous aussi, à tout le monde. Qu'on ne prenne pas, on va changer les algorithmes un petit peu, on va élargir le champ des algorithmes. C'est pas seulement l'informatique qui est important, mais comme vous voyez dans mon titre, ça va être aussi l'économie et la statistique. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est IA? Philippe déjà a reconnu que l'histoire a commencé en 1950, plus ou moins. Mais on n'a pas créé l'IA à ce moment-là, et en fait, on n'a jamais créé IA. Il n'y a pas IA comme eux, ils ont pensé. Il n'y a pas le penser dans la machine. La machine ne pense pas. La machine analyse beaucoup, beaucoup de données, fait des prévisions. C'est différent. Et en fait, en même temps, il y avait une autre histoire qui était séparée, plus ou moins, que ça ne faisait pas partie de l'IA. C'était apprentissage par machine. C'était des algorithmes d'apprentissage qui sont basés sur la statistique, traitement de signal, théorie de contrôle. Et ça commençait tout petit, mais ça devenait très grand dans 10 ans. Et déjà en 2000, il y avait des boîtes comme Amazon qui utilisaient machine learning à grande échelle. Et c'était pour les supply chains, approvisionnement, non pas pour interagir avec les êtres humains. Mais ça marchait. Maintenant, Amazon a une connexion entre des milliards de produits et des milliards de personnes. Et ça, ce serait impossible sans les machines. Et en fait, pour ajouter un petit peu à l'histoire que Philippe nous a racontée, en 2000, pour faire tout ça à grande échelle, avec toutes les données qu'il y avait sur les navires, sur les avions, sur les grèves, etc., etc., tout ce qui est micro pour faire les prévisions, d'où sont les produits et qu'est-ce qui manque et tout ça, il y avait besoin de plus d'un ordinateur. Il y avait besoin de genre 10 000 ordinateurs. Et en fait, les origines du cloud, c'est ça. C'était Amazon qui était en train de faire du machine learning en 2000. Et les solutions que la machine trouvait pour faire ce genre d'allocation, de prévision, c'était intéressant, c'était créatif. Donc tout ce qu'on voit maintenant, qu'est-ce qui a changé? On a pris les données des grèves et des trains, etc., et on a remplacé avec des données de langage. Tout le reste, c'est pareil. C'est le même algorithme, plus ou moins, descente de gradient, les mêmes machines, même échelle, tout. Mais on en parle beaucoup maintenant parce que c'est langage. Et ça semble être humain. Et on n'en parlait pas à 2000. Et en fait, quand on dit GAFAM et on met Amazon là-dedans, j'ai un peu une tendance, ça me fait crisper un petit peu. Parce qu'Amazon a créé beaucoup de valeur avec ses approches. Et beaucoup d'idées, genre le cloud, est venu d'Amazon. Il n'y a pas tellement d'idées nouvelles qui viennent de Facebook, de Google, de Microsoft, depuis 30 ans. Donc, et pourquoi? Parce qu'Amazon avait un modèle économique intéressant. Il y avait des produits, il y avait des personnes qui avaient besoin de produits, il y avait un lien entre le producteur et le consommateur. C'est classique, mais c'est très important. Il n'y a pas ça pour Facebook. OK. Machine learning, ça a marché. Et à un moment donné, il y avait cette invention qui s'appelait LLM, le Large Language Model, ChatGPT. Et tout le monde était impressionné, moi aussi, c'est impressionnant. Et ça avait l'air d'être un être humain. Et encore, ils essayent de faire que ce soit plus humain. Mais en fait, quand je pose des questions à ChatGPT sur la mathématique, et j'ai une réponse, et je pose une autre question que sur où est-ce qu'on mange bien à Toulouse, c'est pas la même machine qui répond. C'est des êtres humains derrière, qu'ils ont mis des données là-dedans qui parlaient de mathématiques ou de restaurants. Donc c'est deux groupes d'humains qui parlent avec moi en ce moment. Je suis en train de parler avec une collectivité, un collectif. OK, ChatGPT, ça, c'est pas un être, c'est un collectif. Avec 7 milliards de voix derrière. Toutes les données que tout le monde a mis là-dedans, c'est là-dedans. Et donc, notre interaction, c'est moi et un collectif. Et c'est pas seulement moi, c'est tout le collectif avec tout le collectif. OK, ça, c'est les technologies. C'est social dès le début. OK? Mais le problème, c'est les gens qui implémentent des algorithmes pour faire ChatGPT, ils pensent pas en ces termes-là. Ils pensent en mémoire, en circuit, etc., etc., là-dedans, derrière. Donc, il faut qu'on pense à un niveau plus économique et plus social. Et on voit ça, pas seulement pour le manque d'approche collectiviste, mais aussi pour l'incertitude. L'incertitude, tout le monde, tous les êtres humains gèrent l'incertitude d'une manière incroyable. Nos vies sont pleines d'incertitudes. Chaque moment, c'est pas clair qu'est-ce qui va poursuivre. Qu'est-ce qu'on voit dans la rue, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Demain, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Dans 10 ans, etc., etc. Mais on gère ça et on vit bien. OK? Pourquoi? C'est un peu l'évolution qui nous donne cette capacité de gérer l'incertitude, et surtout quand on est dans un groupe. Il y a moins d'incertitude quand on est dans un groupe, ça devient organisé, il y a des marchés, il y a des prévisions, on suit les gens, etc., etc. Donc, incertitude et collectivité, ça va ensemble. Et le LLM, ChatGPT, n'a pas de collectivité explicite, et c'est très mal pour l'incertitude. Tu demandes à ChatGPT, tu es sûr de ce que tu viens de me dire? Et ChatGPT va dire oui, je suis complètement certain, et voilà pourquoi. Et tu vas ajouter une petite autre phrase, et ChatGPT dit, ah d'accord, je comprends maintenant, je suis complètement sûr d'un truc complètement différent. OK, et tu peux poursuivre cet argument pendant des heures. Il n'y a pas de raisonnement d'incertitude là-dedans. OK, c'est dans la technologie, il y a des centres de gradients, il y a beaucoup d'éléments importants, mais il n'y a pas de traitement d'incertitude, encore. OK, on a quelques idées de comment faire, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais c'est pas là-dedans. La technologie manque quelque chose d'essentiel, OK, pour agir dans la vraie vie. Et puis, le troisième élément qui manque, c'est les incitations. Et on voit ça quand on parle du réseau, de tous les êtres humains qui sont là-dedans, le collectif. Pourquoi on veut participer dans ce collectif? Maintenant, ce n'est pas un collectif où quelqu'un nous a demandé de participer. Okay? On a mis des données en Internet, et ils ont volé les données, et c'est la fin. Okay? Ce n'est pas un bon modèle pour l'économie et pour l'être humain. Donc, il faut penser à les incitations, et incitation, c'est un bon mot. Ça veut dire... Pourquoi j'ai valeur si j'entre dans ce réseau? OK, je continue. Excusez-moi de temps en temps pour un anglicisme. Je suis à Paris depuis 6 mois et donc je peux parler très très bien des chansons et des restaurants, mais parler de technologie, c'est dur pour moi en français. Mais l'avantage, c'est que je parle beaucoup moins vite que Philippe Aguillon. OK, comme je viens de dire, ChatGPT, c'est pas terrible pour l'incertitude. Et si tu es économiste, micro, il y a un autre genre d'incertitude qui est très important, c'est la symétrie d'information. Si je suis en train d'interagir avec vous, et il y a de la valeur derrière, c'est important. Vous êtes chef d'un restaurant et je suis client. Il y a des choses que vous savez que moi je sais pas, et vice-versa. Moi, je sais combien je veux payer, vous savez à quel point le dîner va être bon et tout ça. Et on doit gérer, déterminer les prix, déterminer beaucoup de choses entre nous, et on manque d'informations. Et dans une collectivité énorme, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui manquent, qui est asymétrique, mais on veut quand même avoir les interactions. Et ça, c'est un marché. OK? Et les économistes, au niveau micro, étudient beaucoup ces asymétries d'informations. Ça, c'est une incertitude aussi, mais c'est pas statistique. Ça s'en va pas si on prend un échantillon plus grand. Donc, en statistique, on n'a jamais étudié ça. Et en économie, ils étudient un peu moins ce qu'on a étudié nous en statistique, c'est les échantillons et tout ça. Donc, il faut mettre ensemble. Comment on gère l'incertitude avec des asymétries d'informations? On va parler un petit peu des contrats et les enchères aussi, où les gens arrivent et on sait pas certaines choses, mais on a une procédure qui va faire que quand même il y a un prix déterminé et puis il y a une transaction. Et souvent, on parle de principal agent model. Il y a un principal qui veut faire quelque chose, c'est le patron, et un agent qui doit faire quelque chose, et c'est l'agent qui sait à quel point il est capable de faire ça vite. Et si le patron savait ça, il pourrait déterminer un prix, et c'est pas ça, donc l'agent a une tendance à dire les mensonges pour avoir un prix meilleur, etc. Donc ça fait beaucoup partie de l'économie au niveau micro. Okay. Niveau micro, ça existe en France, mais moins. Macro, il y a des prix Nobel. Micro, pas tellement. Okay. Et ça, il faut changer. Donc, pour résumer un petit peu, on a un grand réseau avec beaucoup de participants, des milliards, nous, mais pas seulement nous. Il y a des machines là-dedans aussi. C'est pas qu'on va avoir un ChatGPT sur une colline et tout le monde parle avec ça. Il y a un truc central qui va dominer tout le monde, qui va savoir tout. C'est ridicule comme idée. Okay? La machine sur la colline ne peut pas savoir tout ce qu'on est en train de penser en ce moment. Ça dépend du contexte, ça dépend des interactions, ça dépend de notre passé. La machine ne peut pas savoir tout ça. Okay? Et là aussi, c'est un peu plus comme un marché. Si je vais dans un marché à Clignancourt, il y a beaucoup que je ne sais pas. Beaucoup. Mais quand même, je vais extraire de la valeur, parce qu'il y a des règles, des connaissances, des aperçus qu'on obtient quand on est dans un marché. Okay? Et la machine ne sait pas tout ça. Okay? Donc, marché, c'est bon. Hein? Capitalisme, non, d'accord. Mais marché, c'est bien, c'est important. Et quels sont les algorithmes derrière les marchés? C'est ça qui va changer. Ça ne va pas être les mêmes qu'on avait depuis 3000 ans. Donc, pourquoi on est en train de parler de ça? Parce qu'on prend beaucoup de données des personnes, et on met ça dans la machine. Mais les données qui viennent des personnes, pourquoi ils veulent contribuer d'abord? Quelle valeur est-ce qu'ils peuvent obtenir? Et pourquoi ils ne disent pas des bêtises, des mensonges, etc.? Et en fait, beaucoup disent beaucoup de bêtises et mensonges, surtout la Russie. Mais pas seulement, tout le monde. Tout le monde. Il y a des incitations, ça dépend des incitations. Dans quel cadre tu te trouves? Ok, et puis il y a beaucoup de trade-offs entre, par exemple, si je veux avoir un modèle très très fiable, qui fait des prévisions très très bien, ou je vais être généreux, je vais traiter tout le monde pareil. Là, il y a un trade-off. Et en économie, on parle beaucoup de trade-offs. Comment maximiser quand même une frontière de Pareto où tout le monde a quelque chose de valeur. Ok, et j'avais déjà dit ça, je vais sauter. Ok, donc. Les dernières 20 minutes ou 30, je ne sais pas, de ma présentation, ça va être des petites anecdotes d'exemples de problèmes, de solutions, de recherches, et puis juste des Gedanken. Pour donner un petit idée de cette, pour moi, cette ingénierie qui est en train d'émerger. Et ce n'est pas IA comme on a lu, ce n'est pas IA des années 50. Qui a un être qui pense mieux que nous. Non, c'est vraiment pas ça du tout. C'est une masse d'algorithmes, mais quel algorithme, ça va être différent. Ça va pas être des algorithmes du passé, ça va être nouveau. Et donc, je veux tracer un peu l'idée de qu'est-ce que ça peut être. Et c'est important pour moi aussi, que c'est pas seulement les technologistes qui décident tout, ou les hommes politiques, les femmes politiques. C'est tout le monde qui peut décider, qui peut comprendre ce qui se passe et pourquoi. Okay, c'est donc, algorithme, marché, ces termes-là doivent faire partie du dialogue. Okay? Donc, pour donner un premier exemple, ça c'est une boîte en fait dans laquelle je participe. C'est une boîte qui a le but de changer le monde de la musique, en fait de changer le marché pour la musique. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment un marché pour la musique. C'est étrange, mais il y a 50 ans, il y avait l'industrie pour la musique. Et il y avait certaines personnes qui faisaient la musique très bien, ils ont été élevés, ils ont fait beaucoup d'argent, et il y avait très peu de personnes qui faisaient une carrière dans la musique. Et c'est encore pire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes les données, 90% des chansons qui sont écoutées aujourd'hui en France, aux États-Unis, etc., ce sont des chansons qui ont été écrites dans les dernières six mois, par des personnes que vous ne connaissez pas, moi non plus, qui ont 20 ans, 25 ans. Parce qu'il y a vraiment une créativité à cet âge-là. Ils ont le computer, ils vont chez eux la fin de semaine, ils font des chansons, ils mettent ça sur Internet, et les autres gens écoutent. Il n'y a pas de transfert d'argent là-dedans. Et donc, à 25 ans, ils ne sont pas payés bien par YouTube, ils sont vraiment payés vraiment très très peu, donc ils arrêtent la musique et font autre chose, au chômage. Ok, donc United Masters, c'est moi qui veux changer ça. Donc, c'est un marché à trois axes et avec beaucoup de données là-dedans. Sur chaque axe, il y a des flux de données. Donc, il y a des musiciens qui sont très jeunes et ils font des chansons. Et il y a nous qui écoutons les chansons et il y a un système de préconisation, de recommandation qui lit ça. C'est classique. Okay, si je commence à aimer cette musique-là, je vais avoir autre musique de ce genre. Mais là, il n'y a pas d'argent. Donc, on ne peut pas faire un salaire. Donc, on a introduit avec Steve Stout, qui est le CEO, qui est très fameux aux États-Unis, fameux comme Michael Jordan, le vrai. Il est un grand producteur du monde hip-hop. Et c'est un copain. Et je travaille avec lui depuis 10 ans. Et la boîte United Masters, derrière, il y a une grande analyse de données. Et aussi, il y a des marques. Par exemple, la National Basketball Association, Steve est copain avec LeBron. Ils ont signé un contrat. Quand ils veulent de la musique, il y a une vidéo qui montre le jeu d'hier. Quand il y a la musique venait de Beyoncé dans les années auparavant. Maintenant, ça vient de United Masters. Ça veut dire qu'il y a un musicien qui est identifié. En ce moment, cette musique va à la boîte. Vous écoutez, vous êtes là à gauche. Et en ce moment, le musicien vient et paye. OK? Et si NBA commence à aimer cette musicien, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent quand il y a cette musique-là, ils vont payer le musicien pour faire plus de chansons. Et puis, il y a d'autres marques qui voient ça. Par exemple, FIFA est là-dedans. FIFA voit ça. Ils disent, ah oui, les jeunes gens qui aiment les NBA, ils aiment aussi le foot. Donc, ce musicien est populaire entre eux. On veut avoir contact avec eux, on va embaucher ce musicien pour faire des chansons pour nous. C'est en train de se passer en ce moment. Donc il y a 3 millions de musiciens là-dedans et c'est exclusif. Ils ont signé avec United Masters et seulement United Masters, 3 millions. Et il y a 200 marques. Donc c'est en train de faire des petits salaires à beaucoup de jeunes gens. Donc quand Philippe disait que oui, AIA va créer des emplois, là c'est un exemple. Parce qu'on avait vraiment peur que la musique s'en va. L'IA le fait tellement bien, et je crois, j'ai jamais cru que ça va faire tellement bien, ça va faire pas mal, mais vraiment bien. Ça va pas faire bien comme ces jeunes gens-là. OK? Et donc, là, c'est un système d'IA, il y a beaucoup de flux de données, d'analyse, etc., pour faire ça bien, pour que ce soit un marché qui marche. OK? Et sans les données, ce marché ne marcherait pas. Il y a eu beaucoup d'exemples dans le passé, mais ça marche. OK. Pour passer à un autre exemple, donc là, j'ai mis les données, si ce n'était pas clair. OK, ça, c'est une boîte qui existe, que nous, on a fait. Le deuxième exemple, c'est une analyse de marché qui existe déjà en Internet, que tout le monde, que c'est pas nous qui ont fait, mais qui existe. Donc, là, avant, il y avait 3 points, c'était un triangle. Maintenant, il y a 3 couches. Okay, c'est une structure. En économie, il y a seulement un principal et un agent. C'est limité. Le vrai monde, il y a beaucoup de principaux, beaucoup d'agents, et puis un principal peut être un agent aussi pour une autre transaction. C'est un réseau. OK, donc là, on a 3 couches. Il y a des utilisateurs, c'est toi et moi, et on veut des services, dans genre paiement. Donc, on utilise Mastercard pour le service, et ils obtiennent des données de nous. Et comme ça, ils peuvent améliorer leur service. Donc, ça se passe tout le temps. Okay. G7, maintenant, ça va très, très bien. Il y a 10 ans, G7 était pénible. Maintenant, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont analysé beaucoup de données. C'est clair. Donc, service données, c'est bien. C'est classique. C'est la microéconomie qui donne lieu à la croissance. Mais le problème, c'est que les boîtes au milieu, ils ne font pas beaucoup de sous. C'est 5% pour les transactions, c'est pas assez. Donc Mastercard, s'ils font seulement ça, le service, ça va pas aller. Ils vont être dehors. Donc qu'est-ce qu'ils font pour avoir autre source de revenus? Ils vendent des données à des autres, ok, third party. Pourquoi ces gens-là veulent des données? Mais ils font de la recherche du marché. Si je veux ouvrir un restaurant dans le 3e de Paris, je dois avoir quelques idées si ça va marcher. Et je peux regarder les données, de qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils font, quelles transactions ils font. Ah, il y a beaucoup de transactions dans ce, de, pour la pizza, là et pas là. Ah, il y a une opportunité. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent des données pour faire la recherche du marché, de beaucoup, beaucoup de marchés. Donc, il y a un prix déterminé pour les données. C'est intéressant déjà, c'est un marché pour les données. Ce n'est pas un marché pour les frigos, etc. C'est un marché pour les données. Mais le problème maintenant, les gens à gauche, ils ont perdu quelque chose maintenant. Ils ont perdu la vie privée, la privacy. Okay? Ils réalisent ça. Ils disent, ah, mes données vont à vous, au milieu, mais vous donnez à quelqu'un d'autre, j'aime pas ça. Okay? Je vais aller aux avocats, aux hommes politiques, et je vais demander qu'il y ait la régulation, que ça ne se passe pas. Donc ça détruit tout. Bon, on est content? Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qui est meilleur? Il y a des algorithmes qui existent qui peuvent aider pour la protection de la vie privée. Okay? Si je donne des données, il y a des algorithmes, ça s'appelle differential privacy, privacy différentielle, où tu ajoutes un peu de bruit aux données. Et si tu ajoutes beaucoup de bruit, je suis vraiment protégé à ce moment. Okay? Et donc, il y a des théorèmes là-dessus. Pour le census aux États-Unis, qu'on fait tous les 10 ans, ça a été utilisé pour protéger la vie privée, mais quand même faire de l'analyse des citoyens aux États-Unis. Donc, on peut faire ça, et le gouvernement pourrait réguler, dire, on va ajouter tel ou tel bruit, niveau de bruit, pour protéger les citoyens. Okay? On a analysé cette approche, et ça ne marche pas non plus. Mais je vais vous dire pourquoi. Meilleur, c'est d'utiliser ça comme un marché, de dire aux boîtes au milieu, de dire rien. Mais ils savent qu'il y a la possibilité d'offrir un service où il y a protection de la vie des données. Ils peuvent ajouter du bruit eux-mêmes. Okay? Ils peuvent dire, par exemple, Google peut dire, on va ajouter très peu de bruit, et Mastercard peut dire, on va ajouter beaucoup de bruit. Et donc, les utilisateurs vont voir ça, ils vont dire, c'est important pour moi de protéger mes données. Je vais aller à Mastercard. Et peut-être beaucoup de gens vont faire ça. Donc, Mastercard va avoir beaucoup de données, leur service améliore, et donc, il y a un bon petit circuit là. Mais le problème maintenant, c'est que ceux qui achètent les données vont voir un Mastercard qui ajoute beaucoup de bruit. Ces données ont moins de valeur. OK? Et donc, il y a une contre-tendance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on peut être des mathématiciens, analyser ce système. Okay, ce système avoir des points d'équilibre, okay, entre les prix, les productions, qui va où, et la protection totale de la vie privée des gens. Tout ça peut être mis dans une équation. Ce n'est pas une équation de machine learning, ce n'est pas une optimisation. C'est un équilibre qui est différent, bien différent. Donc, avec Ali Reza Fala, qui est mon postdoc, on a fait ça. Et je vais vous montrer l'analyse dans un moment, mais juste pour dire comment on pense à des systèmes où il y a des principales et il y a des agents. La théorie des incitations, en fait, c'est une invention française, un petit peu. Il y a eu Jean-Jacques Lafont, qui a écrit un livre très fameux en 1970, qui est la théorie des incitations. Et là-dedans, il y a beaucoup d'idées de comment gérer des systèmes où il y a ces asymétries entre ce que je sais moi et ce que vous savez vous. Et donc, par exemple, une façon de faire, et dans les avions, quand j'étais jeune, tout le monde payait le même prix, comme au cinéma, pour entrer dans l'avion. Okay? Et ça marchait un petit peu, mais à un moment donné, ça ne marchait plus. Et les avions étaient aux années 80 en train de tomber. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais les gens qui ont créé cette théorie d'incitation, ils ont introduit l'idée de business class et economy class. Et peut-être on n'aime pas ça, c'est pas socialiste, mais ça fait que si j'ai vraiment besoin d'aller à Rome, je peux payer un peu plus et être sûr d'aller à Rome. Et avec mon petit vin et avec mon siège un peu plus grand. Le lendemain, peut-être pas. C'est pas seulement que je suis riche, c'est le moment. Okay? Et personne ne peut déterminer ça, la compagnie aérienne ne peut pas savoir, mais moi je sais. Et si je l'offre avec les prix et les disponibilités et tout ça, je vais choisir quelque chose qui convient à moi. Et donc eux, ils pensent que s'il y a un collectif qui fait ça, certains gens vont choisir le business et d'autres le moins payant, et on va remplir l'avion, mais le prix ne va pas être très bas. On ne doit pas déterminer un prix pour absolument réguler pour tout le monde. Et donc, ça a fait le succès des avions, des compagnies aériennes, après, c'est ça. C'est un grand succès de la microéconomie. Donc, il y a des algorithmes là-dedans, c'est pas juste des maths. Ça s'appelle un contrat, service-prix. Et on donne le même contrat à tout le monde. C'est pas que certains gens ont priorité, tout le monde a le choix. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut mettre ces algorithmes en contact avec l'IA? Est-ce qu'il y a de l'IA dedans? Et pour moi, c'est la grande opportunité. Il n'y a pas d'IA dedans, dans le sens qu'on détermine un contrat une fois pour toutes, des personnes intelligentes dans une salle ont décidé les prix, les services, etc. Et de temps en temps, ils changent ça. Mais il y a des algorithmes d'apprentissage qui peuvent apprendre quel est le prix meilleur. Okay? Et quel est le service qui va le mieux pour la majorité des personnes. OK, pour retourner donc à cet exemple-là, on a fait exactement ce genre d'analyse. On a pris le modèle de principal agent, on a mis là-dedans. Donc, une plateforme, dans ce cas, peut être un principal, quand il fait des interactions avec les acheteurs, mais puis être un agent quand il fait des interactions avec les utilisateurs. Donc, c'est un peu nouveau, ça agrandit un peu la théorie des incitations. Et on peut le faire. Donc, juste pour entrer un petit moment dans un peu de mathématiques, parce que je sais que certains parmi vous sont très mathématiques. Donc, on peut analyser l'algorithme de ce genre de système, et l'analyse mathématique, c'est un algorithme aussi. Donc, on fait dans un ordre, on détermine d'abord qu'est-ce que la patronne peut imaginer faire, et puis après quelqu'un d'autre, et puis après quelqu'un d'autre. Et tous les êtres qui décident, ils savent que les autres vont décider après. Et ils pensent un peu qu'est-ce qu'ils vont faire, et ils choisissent la solution meilleure pour eux en pensant au futur. Donc, c'est un peu de mathématique algorithmique. Et on détermine un point d'équilibre pour le système. OK? Mais ce point d'équilibre dépend de beaucoup de variables. Le niveau de privacy qui est imposé, si on peut avoir une borne inférieure sur la privacy, le gouvernement pourrait dire qu'au moins ce niveau de privacy il faut avoir. Ou bien autre paramètre de ce système. OK? Et donc, on trouve un petit diagramme où il y a des points d'équilibre qui bougent selon le changement de ces paramètres. Donc, quelqu'un dans le gouvernement peut changer ses paramètres un petit peu et voir où vont aller les points d'équilibre. Et un point d'équilibre détermine qui a le résultat qu'il veut, qui n'a pas le résultat qu'il veut, etc., etc. Et puis le total, le bien social. Okay? Et si tu veux faire la régulation dessus, sur un système compliqué comme ça, avec les trois couches et tout ça, c'est pas en regardant les algorithmes là-dedans que tu vas réguler. C'est en regardant les équilibres et le bien social qui résulte d'un certain choix de paramètres. Et là, il faut réguler. Il faut dire, on ne veut pas être dans ce côté-là du diagramme. Quel paramètre doit être où pour ne pas de jamais aller dans cette partie du diagramme. Et donc, juste pour terminer cette anecdote, en Europe, il y a le GDPR qui est plus ou moins une régulation qui a été faite trop vite. Et en fait, il y a des bornes qui sont pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on va dans les sites web maintenant, on doit cliquer, oui, j'accepte les cookies. Okay? Et c'est un peu le résultat, le seul résultat de ce loi. Et l'autre résultat, c'est très négatif, c'est que les boîtes de petite taille ou de taille moyenne, ils sont abîmés et les grandes boîtes, non. Exactement comme Philippe Aguillon vient de dire. OK? Et donc, on a fait l'analyse avec une approche qui est différente, qui a plusieurs niveaux de protection de privacy. Et les plateformes peuvent choisir entre ces niveaux. Ça marche bien mieux. Tout le monde est protégé. Les utilisateurs et aussi les plateformes de petite taille. OK? J'avais l'occasion, j'ai fait ce talk en février, et le président de la République, Macron, m'a fait un texte, enfin ce secrétaire, et je suis allé à l'Élysée et il voulait parler de ça. Pour moi, c'est un homme très intelligent, il a tout compris, ses questions étaient super, et c'est la première fois que j'ai vu un président, j'en ai connu d'autres, qui fait ce genre de questions qui sont très pertinentes pour le futur. OK. J'aimerais des questions, donc je vais essayer de faire ça très vite. Dans les essais cliniques, c'est un domaine où il y a beaucoup de données, il y a des incitations. Et c'est jamais été utilisé, la théorie des incitations là-dedans. C'est la théorie de la statistique plutôt. Donc, les essais cliniques, c'est pour oncologie, etc. Ça coûte des millions d'euros par an pour faire des essais. Pourquoi ça coûte tellement cher? Parce qu'on prend de façon aléatoire 10 personnes dans une branche, je fais comme Philippe, je abîme tout. 10 000 personnes ici dans une branche qui contrôle 10 000 personnes qui sont en traitement, ça coûte cher et on donne le vaccin à eux et pas à eux et on fait une comparaison. Ok. Le problème, c'est que les régulateurs dans ce système, aux États-Unis, ça s'appelle FDA, ils ont une tâche qui est de faire un bon choix. S'il y a une médecine nouvelle qui vient d'être proposée, ils veulent tester cette médecine, ce vaccin, etc., et déterminer oui ou non, ça peut aller sur le marché parce que ça aide les gens. Donc, ils prennent beaucoup de données, ils font l'analyse et essaient de décider avec des méthodes statistiques. Ils font ça très, très bien. Le problème, c'est que les médecines ne viennent pas d'une théorie scientifique, ce n'est pas des hypothèses qu'on teste, c'est des médecines qui sont proposées par les agents qui sont les boîtes de pharma. Et les boîtes de pharma veulent que les médecines vont sur le marché. Okay? Donc, s'il y a un prix qui est trop pour faire l'essai et savent que leur médecine a des petits problèmes, ils ne vont pas l'envoyer. Si en revanche, leur produit est vraiment très très bien, ils vont l'envoyer n'importe quel soit le prix. Parce qu'ils vont profiter quand c'est vendu. Donc il y a des incitations là-dedans, et j'ai fait des petits calculs là, je ne veux pas entrer dans le détail, mais s'il y a un profit qui est très bas, la boîte va calculer que son profit, même si la médecine ne marche pas, ça va être moins 10 millions d'euros. Donc ils ne vont pas envoyer rien, sauf qu'ils savent que c'est vraiment quelque chose qui marche. Et donc, le FDA a une tâche simple, les hypothèses sont bien, ils déterminent ce qui marche et ne marche pas, et tout le monde est content. Le problème, c'est que quand il y a des profits énormes qu'on peut réaliser, comme 2 milliards, qui est ibuprofène, un truc comme ça, donc même si la médecine ne marche pas, on peut gagner 80 millions de dollars. OK? Utilisons les chiffres qui sont là-dedans. Donc, la boîte a une incitation d'envoyer tout ce qu'il possède comme candidat, et certains vont aller sur le marché même si ça ne marche pas. Et c'est ça qui se passe. OK, donc, est-ce qu'on peut résoudre ça, ou seulement écrire au journal, dire que ça ne va pas, les boîtes sont affreuses, etc. Ou non, il y a une façon de résoudre ça. Et donc, on a créé une théorie nouvelle qui s'appelle Contract Theory, Statistical Contract Theory, théorie des contrats statistiques. Et je ne vais pas entrer dans les détails là-dedans, mais là, c'est un contrat qu'on offre à une boîte qui veut mettre une médecine sur le marché. Ils doivent, s'ils veulent faire ce contrat, ils doivent payer, et puis ils doivent choisir combien ils vont être remboursés dépendant de l'essai clinique. Okay? L'essai clinique montre quelque chose, et ils peuvent prédire, ma médecine, je vais avoir un bon résultat, oui ou non. Donc, je peux parier en faisant le choix d'un menu, c'est comme business class, economy class. OK? Et donc, là-dedans aussi, il y a des payoffs, donc il y a des données, il y a aussi des incitations, il y a des payoffs, c'est tout un petit système, et on peut analyser ça de façon mathématique, et on peut dire si beaucoup de médecines vont aller sur le marché, qui sont des bonnes médecines ou non. OK? Et on a fait ce genre de calcul, et on est en train de parler avec le FDA pour faire mieux. OK, je vais passer là. Dernier petit point, c'est important aussi de penser pas seulement aux algorithmes. L'algorithme, c'est un langage. Mais on peut exprimer dans le langage aussi le but social, okay, les métriques qu'on va utiliser. Avec mon étudiant Serena Wang, on a étudié ça dans un système des hôpitaux. Et juste très vite, à New York, le gouvernement a décidé il y a 10 ans qu'il y avait, ça n'allait pas avec les hôpitaux, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, ils ont fait publier une série de métriques pour mesurer chaque hôpital comment ça va, pour faire un leaderboard, un scoreboard. Le problème, c'est que les hôpitaux ont regardé ça, ils ont changé leur protocole pour la mission des gens et pour faire qu'ils faisaient admission de moins de gens malades. Okay. Donc, 5 ans après, il y avait beaucoup de plus de gens qui mouraient à New York à cause de cette régulation qu'auparavant. Ça s'appelle Goodhart's Law en économie, c'est bien étudié. Et là aussi, on peut analyser avec des données, avec des incitations et une approche en théorie des jeux qui s'appelle Agency Games. C'est là aussi, quelqu'un, juste pour dire très vite, l'hôpital, c'est les métriques qui sont meilleures pour mesurer eux-mêmes. Des métriques qu'on sont difficiles à évader, okay, à contourner. Okay? Et si le gouvernement demande aux hôpitaux de dire quelles sont les métriques meilleures, ils vont dire des mensonges. Mais dans certains cas, non. Ça aide de dire la vérité. Et donc, tout ça, c'est important de penser à ces termes-là. Donc, je vais conclure là. Je vais mettre un dernier slide juste pour animer un peu la discussion. Je saute cette partie-là. Voilà. Pour moi, IA, c'est pas une grande découverte de la pensée humaine. On comprend l'intelligence et on met ça dans la machine. C'est vraiment pas du tout ça. C'est plutôt un champ d'ingénierie qui est en train d'émerger. Et il y a beaucoup d'éléments et il y a beaucoup à faire. Donc, pour les jeunes gens parmi vous, c'est pas fini du tout. Ça vient de commencer. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.